Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Soyez le bienvenu au Parlement portugais, Monsieur le Commissaire Moscovici. C'est pour nous un privilège d'avoir votre présence ici, dans notre Commission des Affaires européennes. Muito obrigada pela sua presença num momento importante para Portugal, num momento em que soubemos pela Comissão, pelas instituições comunitárias, que Portugal não é alvo de aplicação de sanções por déficit excessivo, o que seria, aliás, se isso viesse a acontecer, uma situação injusta e injustificada, como todos os grupos parlamentares com assento nesta Assembleia tiveram a ocasião de expressar no momento, em vários momentos. Senhor Comissário, temos uma hora, o tempo não é muito. As perguntas serão feitas em globo pelos vários grupos parlamentares e o Sr. Comissário terá 10 minutos para a sua intervenção inicial. Sem mais delongas, dou a palavra ao Sr. Comissário e agradeço mais uma vez, em nome da Comissão dos Assuntos Europeus, a sua presença. Muito obrigado.
Merci, Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, Madame la Présidente. C'est un plaisir pour moi d'être devant vous aujourd'hui et d'être d'abord ici à Lisbonne, dans ce pays ami et qui est particulièrement cher à mon cœur. Je suis là pour échanger avec vous sur la situation économique et budgétaire du Portugal, mais aussi pour vous dire un mot sur la stratégie économique de la Commission européenne, en particulier pour la zone euro, dont le Portugal est un membre éminent. Vous savez, vous l'avez rappelé, que nous sommes au lendemain d'une séquence de décisions de la Commission sur les projets de loi de finances dans le cadre de ce qu'on appelle le TUPAC ou le pacte de stabilité et de croissance. Nous avons publié, c'était il y a maintenant 10 jours, nos prévisions économiques d'automne et en conséquence, nous avons adopté ce mercredi, avant-hier, un paquet économique stratégique pour la croissance et la zone euro. Et plusieurs de ces documents concernent en particulier le Portugal. Une communication, comme on dit, sur les actions suivies des faits, c'est-à-dire sur ce qui était les engagements pour le budget actuel pour 2016, sur le partenariat économique et un avis sur le projet de budget pour 2017. Donc un regard sur le passé et le présent, et un regard sur le futur. Et par conséquent, c'est un moment qui est particulièrement bienvenu pour venir échanger avec vous et pour expliquer nos décisions et nos avis et les débattre avec le Parlement, comme c'est bien naturel. Parce que c'est, de mon point de vue, le devoir d'une commission qui se veut politique, au bon sens du terme, c'est-à-dire qui est en contact avec les citoyens, qui rencontre les pouvoirs des États membres, de venir confronter son action aux représentations démocratiques au sein de nos États. J'en viens à la substance. D'abord, l'économie portugaise. Elle retrouve le chemin de la croissance et nous devons nous en réjouir, notamment parce que ça permettra, d'après nos prévisions, un recul du chômage, dont nos chiffres devraient atteindre 10% en 2017, donc se situer dans la moyenne de la zone euro, et ce serait la première fois depuis 2010. Personne ne peut se réjouir d'un chiffre du chômage de 10%, il faut le faire reculer, mais c'est assurément une amélioration substantielle. Les derniers chiffres de croissance, ceux du troisième trimestre, qui portent pour 2016 votre acquis de croissance à 1,2%, doivent être salués, et j'y reviendrai. Il manifeste que l'économie portugaise retrouve de l'élan. Et c'est confirmé dans les perspectives pour 2017, qui sont orientées à la hausse. Le gouvernement prévoit 1,5%. Mes services, ceux de la direction générale dite ECFIN, prévoient 1,2%. C'est une différence qui est significative, mais qu'il ne faut pas exagérer. Je souhaite évidemment que l'avenir démontre que l'optimisme portugais était justifié. Ça arrive. Par exemple, pour 2016, la performance est meilleure que celle que nous prévoyons. Donc il faut toujours avoir de l'humilité, 1,2, 1,5, disons qu'on est dans une marge qui est jouable. Avant d'échanger avec vous, permettez-moi de rappeler les principales décisions que nous avons prises concernant le Portugal. D'abord, nous avons constaté mercredi qu'il y a eu effectivement action suivie des faits, effective action, pour l'année 2016. Cela signifie en clair que les engagements budgétaires qui avaient été pris pour cette année ont été tenus. Ce qui nous a permis de prendre une décision que je crois très positive pour le Portugal. Vous savez qu'en juillet dernier, nous avions annulé des amendes qui étaient prévues par le pacte. Cette fois-ci, la Commission décide de ne pas suspendre les fonds structurels et les fonds d'investissement, ce que nous aurions été obligés de proposer s'il n'y avait pas eu action suivie des faits. Et je suis très satisfait que le Portugal ait pu démontrer sa capacité à respecter les règles et ses engagements. La Commission, de son côté, a pu mener l'analyse appropriée et pour la première fois, avoir, c'était très intéressant comme exercice, un dialogue structuré avec le Parlement européen qui a très clairement manifesté qu'il ne souhaitait pas que les fonds structurels, dans la situation que connaît le Portugal, soient suspendus. Et je sais que tous les partis autour de cette table ne le souhaitaient pas. J'ai toujours considéré comme périlleuse la voie de la sanction et de la suspension des fonds. Ça peut arriver. Quand les règles du pacte ne sont pas respectées, il faut prendre les dispositions nécessaires. Mais si on peut l'éviter par un dialogue positif avec les autorités nationales, c'est toujours mieux. Je suis persuadé que la crédibilité et l'efficacité des règles européennes, et j'y crois profondément, résident dans leur capacité à convaincre, à inciter, à travers le dialogue, plutôt que dans la possibilité qu'elles offrent de punir. Nous sommes dans un moment où nos citoyens doutent de l'Europe. Et s'ils pensent que l'Europe est une punition ou une sanction et non pas un espoir et une capacité à dialoguer, alors à ce moment-là, ils se tourneront contre l'Europe. Nous devons faire très attention à ça. C'est également pour cela qu'en dépit des incertitudes sur la quantification des efforts prévus pour 2017, nous n'avions pas rejeté le projet de budget pour 2017 et j'avais plaidé fortement pour qu'il en soit ainsi. C'était au mois de juillet. S'agissant du projet de budget du Portugal, nous avons estimé que le projet de budget pour 2017 était à risque de non-conformité, risk of non-compliance. Permettez-moi d'expliquer brièvement de quoi il s'agit. La Commission classe les projets de budget selon une typologie qui dépend des efforts structurels prévus. Et l'effort structurel prévu pour 2017 ne nous permettait pas de décider autrement. Vous avez trois catégories qui sont d'ailleurs qui recouvrent des situations très hétérogènes. Il y a quelques pays qui sont compliant, totalement conformes. Une autre catégorie de pays, ce sont ceux qui sont globalement conformes. Et puis une troisième, ce sont qui sont en risque de non-conformité. Même si, il faut le dire, parmi les huit pays qui figurent cette année dans la catégorie risque de non-conformité, je le dis pas parce que je suis ici, mais je l'ai déclaré en salle de presse mercredi, et il y a eu un débat là-dessus. Le Portugal est probablement, entre guillemets, le meilleur élève. Pourquoi ? Parce que c'est celui pour lequel le risque qui existe, que nous identifions, mais ce risque est le plus faible. Et donc l'opinion dit explicitement, je la cite, que les risques de non-conformité sont à ce stade contenus. Et j'insiste sur le mot « contenu ». Je sais qu'il y a parfois des discussions, et pas seulement au Portugal, sur notre façon de calculer ces efforts structurels. Mais il y a une chose dont je veux vous assurer, c'est que ce traitement est objectif. Nous sommes tributaires d'une méthode commune, appliquée à tous les États, qui n'est pas décidée par nous, mais qui est décidée par les États membres eux-mêmes, et donc nous n'avons pas le choix. Et les résultats de cette méthode étaient que l'écart était très faible entre 0 et 0,1 point, mais néanmoins existant. Avec les chiffres de la croissance que vous avez connus, le risque est vraiment clairement à la baisse. Mais, d'après notre méthode, il existe, d'où cette classification. Concrètement, quelles sont les implications pratiques de cette opinion ? Parce que c'est ça qui importe un Parlement comme le vôtre. J'ai dit explicitement, et je le redis ici, dans la conférence de presse mercredi, que nous ne demandons pas de nouvelles mesures au Portugal tant que ces risques ne se matérialisent pas. et tant que le budget est mis en œuvre de façon sérieuse. J'espère que ces risques ne se matérialiseront pas. Et honnêtement, avec les taux de croissance tels que vous les connaissez, et s'ils se prolongent, c'est tout à fait possible, voire probable. Mais soyons aussi conscients que si les risques se matérialisaient, à ce moment-là, nous serions contraints de revenir devant le gouvernement et le Parlement pour demander que des mesures soient prises. Ce n'est encore une fois pas ce que nous faisons maintenant. Je le redis, nous ne demandons pas de nouvelles mesures au Portugal. Notre approche, elle est assez nouvelle là par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire que c'est une approche d'encouragement et qui s'inscrit dans le cadre de l'intérêt général de la zone euro, de la politique budgétaire globale de la zone euro. Et je veux vous en dire un mot, car c'est un pas en avant décisif pour notre union économique et monétaire. Nous avons adopté, à côté des documents qui concernent les pays, une communication sur l'orientation de la politique budgétaire en zone euro, dans son ensemble, qui souligne le besoin d'une politique qui soit globalement plus expansionniste pour la zone euro. Vous savez que la Commission, dès qu'elle est arrivée en fonction, en janvier 2015, a pris une communication sur la flexibilité. Et c'est vrai que nous appliquons les règles du pacte de manière sérieuse, profonde, mais avec intelligence, subtilité et flexibilité. Pourquoi ? Parce que nous pensons que la politique budgétaire doit à la fois réduire les déficits, mais aussi encourager la croissance. Et cette fois-ci, nous allons un pas plus loin. Et nous donnons un message fort sur le rééquilibrage de la politique économique de la zone euro. Pour la première fois, la Commission a fixé l'orientation budgétaire pour la zone euro. C'est une compétence juridique de la Commission et qui n'avait pas été jusqu'à présent politiquement exploitée. C'est donc un moment extrêmement important pour l'approfondissement de notre union économique et monétaire. Ce que nous voulons, c'est donner aux 19 États membres de la zone euro. La Grèce est dans une situation un peu particulière parce que ça reste un pays sous programme, mais elle est dans la zone euro totalement et mon souhait est que, comme le Portugal, elle réussisse à sortir du programme. Nous donnons aux 19 États membres de la zone euro un objectif global d'équilibre entre soutien à la croissance, c'est la priorité politique de cette Commission, et respect des règles, c'est notre obligation juridique. Nous voulons combiner les deux. Actuellement, la politique budgétaire de la zone euro, c'est une sorte de résultat statistique, donc non choisi, de 19 politiques budgétaires nationales qui sont indépendantes les unes des autres. Ce qui fait que nous ne mesurons pas les conséquences globales de ce que nous faisons et nous n'essayons pas de nous assurer que cette politique budgétaire, en quelque sorte faite d'ensemble indépendant, n'est pas contradictoire avec nos objectifs stratégiques. Et donc nous remplaçons maintenant, le hasard d'une statistique agrégée par la volonté politique d'orienter les politiques budgétaires nationales dans le sens de nos objectifs communs dans le plein respect de nos règles. Nous faisons un pas décisif vers l'union budgétaire de la zone euro. C'est la cohérence avec nos règles budgétaires, notamment le TUPAC. C'est la cohérence avec ce qu'on appelle l'esprit du rapport des cinq présidents, qui pose non seulement un concept, mais une orientation politique pour piloter la politique budgétaire. Et de cette façon-là, je l'ai dit, la Commission agit en quelque sorte comme un ministre des finances collectives de la zone euro. Nous avons désormais un nouvel outil, cette vision agrégée qui fait partie de notre boîte à outils. C'est un sujet essentiel qui doit être au cœur de tout débat sur la politique budgétaire de la zone euro et je m'attends donc que l'Eurogroupe du 5 décembre y consacre du temps, de l'énergie, que le débat soit vif. Mais le soutien du Portugal, et quand je parle du Portugal, je parle de son gouvernement, mais aussi de toutes les forces politiques, à cette vision sera nécessaire. Voilà, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs députés, l'approche que la Commission défend aujourd'hui. Nous faisons une avancée vers une application de plus en plus intelligente et sérieuse, à la fois de nos règles, une avancée que je crois nécessaire, compte tenu du contexte dans lequel l'Europe se trouve aujourd'hui, qui est un concept qui est un contexte qui est difficile, difficile économiquement encore, mais difficile politiquement. Je suis convaincu que nous ne pouvons pas rester immobiles face aux assauts des populismes que nous connaissons de l'extérieur et de l'intérieur de l'Europe. Donc nous devons encourager la croissance. Ce nouvel équilibre y trouve une application concrète et immédiate dans le cas du Portugal. Nous sommes sérieux, parce que notre opinion n'est pas indulgente, elle n'est pas une opinion politique au sens de politiser, elle est consciente des risques. Sérieux, oui, mais intelligent aussi, car il ne nous semble pas utile, ni bon, ni pour le Portugal, ni pour la zone euro, de resserrer la politique budgétaire maintenant. Notre décision rend donc justice, je crois, à la crédibilité de nos règles, mais aussi à celle de la politique budgétaire qui est menée par votre pays. Voilà les quelques mots d'introduction que je voulais formuler pour introduire nos débats, que j'attends maintenant.
Muito obrigada, Sr. Comissário. Passamos então à ronda de perguntas. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Morgado, Partido Social Democrata.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, deixe-me dar as boas-vindas ao Parlamento Nacional, Sr. Comissário, Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia. Deixe-me começar por este último ponto que levantou, que me parece muito importante, e o PSD saúda, de que a Comissão Europeia pela primeira vez apresenta uma orientação orçamental para a zona euro. Para nós a satisfação é dupla, não só porque consideramos que é uma boa iniciativa, mas também, como estou certo que se recordará, esta proposta fez parte de um conjunto de propostas de reforma para a zona euro que o governo anterior, e que o PSD continua a acompanhar, apresentou em maio de 2015. Esta era precisamente uma delas. Há ainda muita coisa a fazer no âmbito restrito do semestre europeu, a sua simplificação, a sua concentração em matérias de política nacional que tenham efeitos transeuropeus mais óbvios, mas este é, evidentemente, uma boa iniciativa e um bom início. E isso dá-me um mote para pedir a sua opinião e o seu apoio para as restantes propostas de reforma que então apresentámos em maio de 2015 e que entregámos ao Presidente da Comissão Europeia, ao Presidente do Banco Central Europeu, ao Presidente do Conselho Europeu. Queria pedir a sua opinião e o seu apoio também para uma reforma mais ampla, na medida em que países como Portugal, mas não só, a zona euro como um todo, precisa de um reforço e de uma reforma da arquitetura institucional da zona euro como um todo. E nesse âmbito, permita-me que dê destaque à proposta que então fizemos e que achamos que ainda é mais urgente hoje do que era há um ano e meio, a da criação de um Fundo Monetário Europeu no âmbito da zona euro, com três funções essenciais. A primeira seria de absorver o Mecanismo Europeu de Estabilidade e, portanto, haveria uma instituição com mais escrutínio democrático, com mais eficácia técnica, com mais capacidade financeira para lidar com os pedidos de assistência financeira a Estados-membros que individualmente se encontram numa situação de apuros. A segunda função seria, fazendo uso também dessa capacidade financeira, de esta instituição poder financiar não só os projetos de investimento a par do Banco Europeu de Investimento, mas também, consideramos muito importante, reformas estruturais que são necessárias para os Estados-membros individualmente considerados, mas também para a zona euro como um todo, e que exigem esforço orçamental. E a terceira função seria a seguinte: este Fundo Monetário Europeu seria dotado de uma capacidade orçamental assente em recursos próprios e não em transferências financeiras nacionais, para impedir precisamente que todos estes problemas se tornem no habitual jogo de soma zero, com as consequências políticas que nós conhecemos, mas uma capacidade orçamental assente em recursos próprios que pudesse financiar e estruturar um mecanismo de absorção de choques económicos, sejam idiossincráticos a cada um dos países, sejam assimétricos a choques comuns da zona europeia, e um desses programas poderia ser, evidentemente, a substituição parcial de um seguro de desemprego para todos os trabalhadores europeus dos Estados-membros que aderissem a uma instituição deste tipo. Portanto, a lógica desta instituição seria não da criação de uma união de transferências permanentes. Sabemos que isso é politicamente inviável e nocivo também, mas de uma verdadeira institucionalização da partilha de riscos na zona euro. Isso consideramos muito importante, até porque se nós tivemos até agora decorrente da arquitetura insuficiente que tivemos depois do Tratado de Maastricht, uma zona euro assente sobretudo no estabelecimento e no cumprimento ou não de regras, precisamos agora de entrar numa nova fase em que estejamos mais centrados numa coerência institucional que a União Económica Monetária ainda não tem. Permita-me então que faça uma nota final, também para pedir a sua opinião sobre isto. Há uns dias, há uns 5 ou 6 dias, o Sr. Comissário esteve na Universidade de Harvard, segundo li bem, espero ter lido bem, e na altura fez um discurso onde me pareceu que acompanharia, no fundo, o espírito desta proposta que nós estamos a colocar aqui em cima da mesa, que enfim já tem um ano e meio, como lhe disse, mas que voltamos a renová-la, mas na altura fez uma alusão que eu gostaria que esclarecesse aqui, que no fundo essas reformas seriam instrumentais, enfim, além dos seus próprios méritos, mas elas seriam instrumentais para dar um grande salto em frente na instituição de um super-Estado federal europeu. Permita-me que lhe diga 3 razões porque não me parece que essa ideia seja particularmente feliz no atual contexto, isto é, ela é extemporânea hoje, mas ela também é indesejável. Em primeiro lugar, porque fazer estas reformas instrumentais à construção de um super-Estado federal arrisca-nos a fazer contagiar uma discussão que é absolutamente necessária e a reunião de consensos que são difíceis, pela ideia de um super-Estado federal que não obterá qualquer espécie de consenso. Depois, porque isto fará a agenda mais desejável que os partidos populistas e anti-europeístas possam ter neste momento, o que seria um revés político para todas as forças europeístas na Europa. E, finalmente, porque me parece que este grande salto em frente é, no fundo, o não reconhecimento das lições que temos que aprender da própria instituição do euro. Antes de nos lançarmos em projetos europeus deste tipo, devemos pensar nas suas condições de eficácia, nas suas condições de sucesso e também nas suas consequências de longo prazo. E não me parece que esta ideia de criação de um super-Estado federal esteja amadurecida a esse ponto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, do Partido Socialista.
Senhora Presidente, muito obrigado, Senhor Presidente. Bem-vindo, Senhor Vice-Presidente da Comissão Europeia. É um gosto tê-lo aqui. É um gosto que tenha vindo a Lisboa. E é um gosto que tenha vindo a Lisboa numa semana tão importante para Portugal. Não será seguramente esta bancada que vai fugir às últimas notícias que vieram desde Bruxelas. Gostava de lhe dizer 3 coisas diferentes e gostava de elencar 3 questões diferentes. A primeira, no que diz respeito à agenda desta semana e à análise que a Comissão Europeia fez sobre a situação orçamental portuguesa. A primeira questão que queria registar é que a Comissão, na quarta-feira, e este para nós é um importante sublinhado, a Comissão Europeia vem dizer que estão suspensos os procedimentos que diziam respeito aos déficits excessivos, porque o Orçamento de 2016, a sua execução, revelou eficácia e que por isso Portugal, tal como o Estado membro a Espanha, como outro Estado membro a Espanha, vem então suspensos os procedimentos que diziam respeito aos déficits excessivos e ao facto de não ter tido uma ação eficaz no período 2013-2015. Eficaz desde o ponto de vista orçamental no quadro do PEC. Segundo, dizer-lhe que pela primeira vez nós vemos a Comissão Europeia dizer que o draft orçamental português está muito, muito perto, está de facto muito perto de atingir uma classificação de broadly compliant. E para nós isso é um aspecto muito importante, em grande medida porque qualitativamente altera a percepção e a avaliação que a Comissão Europeia fez, não só em 2015, mas também do draft de 2016. Pela primeira vez nós temos o Sr. Vice-Presidente, a Comissão Europeia, a dizer que Portugal ficou muito perto de ter uma avaliação broadly compliant, o que para nós é um salto qualitativo muito significativo, ainda que lhe deixe a terceira questão. E a terceira questão diz essencialmente respeito ao facto de nós considerarmos que até por aquilo que vamos conhecendo sobre a evolução da economia portuguesa, a evolução do PIB no terceiro trimestre de 2016, que, e deixava-lhe esta questão, que em que circunstâncias é que a Comissão Europeia e a DG ECFIN entende que pode ser revisto ou que pode ter a possibilidade de rever as projeções de crescimento do Produto Interno Bruto para 2017, já que essa revisão teria grande importância para que alguns dos riscos identificados pela Comissão pudessem ser debelados. É a nossa convicção que se Portugal mantiver a trajetória de crescimento assinalável que teve no terceiro trimestre, nós poderemos não só cumprir os objetivos de crescimento económico em 2016, mas também em 2017, tal como constavam do draft português, e assim grande parte dos riscos identificados serem eliminados. Eu diria mesmo que, se Portugal mantiver um crescimento assinalável, como aconteceu no terceiro trimestre, os riscos identificados pela Comissão não se irão verificar, e isso era muito importante para Portugal, porque iria fazer com que a classificação deste draft fosse broadly compliant. Deixava-lhe, no meu último minuto e meio, duas outras questões. A primeira, e na sequência da intervenção até do deputado Miguel Morgado, que em grande medida, especialmente na parte preambular, nós concordamos, é urgente que a Comissão Europeia apresente uma proposta sólida de capacidade orçamental da zona euro. É para nós decisivo que esse passo seja dado, em particular quando nós vemos que, sem essa capacidade orçamental, a União Económica e Monetária poderá continuar a produzir divergência económica, divergência económica e social, e que sem isso, sem esse pilar fundamental da capacidade orçamental, sem concluir a União Bancária, a União Económica e Monetária continuará muito focada na estabilidade orçamental e na estabilidade de preços, com uma política monetária não convencional que é insustentável prosseguir no longo prazo. E, portanto, deixava-lhe esta nota. E, por fim, dizer-lhe que este Parlamento apresentou, ou vai apresentar, uma iniciativa cartão verde no quadro da fraude, do combate à fraude e à evasão fiscal. Que essa iniciativa é apoiada por, eu diria, mais de 80% dos deputados desta Câmara. Foi votado no plenário da Assembleia da República. E que este grupo parlamentar gostaria muito que, no quadro da Cimeira de Março, tão importante na celebração dos 60 anos da União Europeia e na necessidade de um novo impulso na construção europeia, o combate à fraude e à evasão fiscal fosse contemplada como uma das conclusões fundamentais da Cimeira de Março da União Europeia em Roma. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sr. Comissário Moscovici, aproveitando a sua vinda à Casa da Democracia em Portugal, há alguns temas que gostaríamos e não poderíamos deixar de colocar em discussão, já foram eventualmente falados, e o mais premente é, obviamente, o processo de sanções e suspensão de fundos comunitários a Portugal, e sobre isso muito há a ser dito. Em primeiro lugar, é um processo que demonstra que houve um desperdício de tempo e a criação de uma disputa política para que o resultado fosse nulo, nem suspensão de fundos comunitários, nem sanções, apenas muitas complicações desde junho até agora. E consideramos que, no final, acabamos, obviamente, por ter boas notícias, mas isso não nos desvia do que é essencial neste debate e que permite todas as chantagens feitas até agora, que são as regras do Tratado Orçamental. É, de facto, a primeira vez que tenho a oportunidade de discutir consigo matéria europeia e, por isso, espero que não estranhe que lhe diga que há coisas que nos unem nesta matéria, mas também coisas que nos separam. E o que nos une é que ambos temos a mesma opinião, quiçá, sobre as regras europeias, é que elas, de facto, são para desobedecer e há muitas situações que têm acontecido que têm demonstrado efetivamente isso. E o que nos separa, e o Bloco de Esquerda defende isso às claras, e para todos, é de facto que elas são para desobedecer, enquanto que a Comissão Europeia, o Sr. Comissário e outros comissários defendem isso às escondidas e só para alguns países. E, portanto, as regras europeias claramente atacam o investimento público, o crescimento económico, o emprego, o Estado Social. E foi isso que se viu em Portugal, onde o anterior governo quis ser o bom aluno e cumprir olimpicamente as regras orçamentais europeias, e a destruição do país foi bem visível com o empobrecimento e a miséria que vivemos. Mas o curioso, e gostava gostava aqui de realçar isso é que o Sr. Comissário sabe bem que estas regras europeias foram feitas para terem exatamente estes resultados que nós vimos com especial força no nosso país, mas noutros países também. E por isso mesmo elas não se aplicam para, por exemplo, onde as regras aparentemente são para fazer de conta. A França faz de conta que cumpre as regras e a Comissão Europeia faz de conta que verifica e que fiscaliza e que as regras são iguais para todos, quando já toda a gente percebeu que elas não são, de facto, iguais para todos. Mas no nosso país estas regras não foram de faz de conta e a Troika não brincou em serviço, o desemprego não foi de faz de conta, a imigração não foi de faz de conta, a miséria que os nossos trabalhadores viveram também não foi de faz de conta. E, portanto, queria perguntar ao Sr. Comissário se vai continuar com este faz de conta ou se reconhece publicamente aquilo que aparentemente já se diz em segredo a outros países, é que algumas regras não são para todos e se está ou não no tempo de colocar definitivamente o tratado orçamental e as políticas de austeridade na gaveta, que é onde elas deveriam estar. Porque, de facto, é este o debate que se coloca quando durante meses se enrola um processo de sanções a um país, quando sabemos que depois a decisão, e bem, foi contrária à existência dessas sanções e da suspensão dos fundos. Mas também essa decisão revela que as escolhas políticas tomadas no último ano estão a provar ter resultados positivos na economia, ao contrário do PSD, CDS e a própria Comissão Europeia têm vindo a agorar. E, portanto, é preciso não esquecer que, desde logo, o processo das sanções e suspensão de fundos é relativo ao período de governação do PSD e do CDS, é significativo que assim seja, já que apregoaram a austeridade e aprofundaram-na em nome de resultados económicos que nunca aconteceram e ainda provocaram um processo absolutamente desnecessário. Depois de todas as medidas e mais algumas implementadas, os resultados iam sendo cada vez mais desastrosos, retificativos atrás de retificativos, já todos sabemos a história, medidas adicionais atrás de medidas adicionais, e para quê, Srs. Deputados? Para que a vida de quem trabalha neste país e de quem vive neste país fosse piorando, para piorar o desempenho da economia também e aprofundar o ataque simultaneamente das instituições europeias. E, portanto, é bom que todos os dados estejam em cima da mesa quando este debate é tido. Mas, se dúvidas houvesse sobre isto, então vamos aos dados mais recentes da economia após um ano de um governo que, apesar de não ter ainda o confronto que achamos necessário com as regras do Tratado Orçamental, consegue ter diferenças abismais com o anterior. Em vez de retirar rendimentos, estamos a repô-los, a um nível faseado é certo, mas desde logo houve um coro de críticas e ameaças de que vinha aí o diabo, mais ninguém iria querer investir em Portugal, enfim. Os perigos que aí viriam foram em catadupa, levariam o país à falência e estes perigos eram tantos e tão infundados que só têm uma explicação óbvia, teimosia ideológica por uma linha política que claramente e evidentemente, e os factos demonstram, nos estava a levar para o fundo. Com certeza, irei agora terminar. E, portanto, o que nós temos é uma diferença abismal entre o seguir cegamente e aprofundar a linha política obedecida às regras europeias que vinham da Comissão Europeia e, por outro lado, aquilo que temos atualmente, que é uma política diferente, que está a ir num caminho oposto de reposição de rendimentos e que está a provar melhorias, exportações cresceram, o produto interno bruto está a avançar, a economia está a crescer, a procura interna também está a aumentar e, portanto, o desempenho da economia no geral está a melhorar. E, portanto, fica a pergunta para terminar, Senhora Presidente, e apesar de muitos terem ficado surpreendidos ainda estão com estes resultados e, portanto, não terão argumentos políticos para eles, é se, de facto, e tendo em conta que são estas políticas diferentes das anteriores que estão a provocar uma melhoria da economia, para quando, de facto, por parte da Comissão Europeia, uma revisão e a abertura de um debate sério sobre a existência do próprio Tratado Orçamental. Obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Um cumprimento também ao Sr. Comissário Pierre Moscovici. Sr. Comissário, eu começava por lhe dizer que a decisão da Comissão Europeia, que foi anunciada esta semana, de não suspender os fundos estruturais a Portugal e, nesse sentido, não aplicar qualquer sanção a Portugal, foi uma decisão justa, responsável e esperada. Esperada porque houve um grande empenho em Portugal por parte de todos os partidos políticos, por parte do Parlamento, por parte do Presidente da República, por parte dos nossos eurodeputados, chamaram mesmo, no caso do CDS, do meu partido, o Governo português para ir a Bruxelas falar ao Parlamento Europeu, por parte do Presidente da República, por parte do Governo, e de facto houve um grande consenso, porque efetivamente aplicar sanções a Portugal seria totalmente injusto, seria totalmente injustificado. A decisão é nesse sentido justa, porque foi o reconhecimento do esforço que os portugueses fizeram ao longo dos últimos anos, numa gravíssima crise do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro, que teve um conjunto de consequências também do ponto de vista social, e se nós esquecêssemos o sacrifício que o povo português fez ao longo destes últimos anos, estaríamos a tomar uma decisão injusta. Aliás, o Sr. Comissário confirmou-nos agora mesmo aqui que Portugal, este ano de 2016, teve de tomar medidas adicionais, e eu até lhe perguntava muito diretamente quais é que foram essas medidas adicionais que o Governo português tomou e com os quais se comprometeu em Bruxelas, mas a verdade é que nós conseguimos nos últimos anos, de 2010 até 2015, reduzir o nosso déficit de mais de 11% em 2010 para um déficit que em 2015, sem as medidas de apoio ao sistema financeiro, que ficou abaixo dos 3%, tal como foi confirmado pelo Ministério das Finanças, pelo Instituto Nacional de Estatística e pelo Eurostat. Mas é também nesse sentido uma medida que é uma medida responsável. Irresponsável porque eu acho que imperou o bom senso. Aplicar sanções a Portugal seria minar ainda mais a confiança, que é, infelizmente, um bem escasso neste momento. Era nesse sentido abalar o sentimento das pessoas no projeto europeu. Era algo que afetaria não só Portugal, mas que afetaria efetivamente a construção europeia e afetaria o sentimento de pertença de cada um dos europeus neste projeto europeu. Eu acho que nesse sentido nós, de facto, temos de tirar ilações para o futuro. O Sr. Comissário falou, e bem, da aplicação inteligente das regras dos tratados. Não podia estar mais de acordo. Mas uma coisa, Sr. Comissário, é aplicar inteligentemente as regras dos tratados, como agora a Comissão Europeia fez e nós apoiamos, e outra coisa é termos regras diferentes conforme o tamanho, conforme o tamanho do orçamento de Estado de cada um dos países. Eu fiquei muito preocupado quando ouvi o Sr. Presidente da Comissão Europeia dizer que França tinha mais dois anos para ajustar o déficit, porque França é a França. Acho que não é positivo fazer este contraste. Tal como fiquei muito preocupado, e penso que todos nós, enquanto europeus, ficámos preocupados de ler notícias a propósito de um livro escrito pelo Sr. Presidente da República Francesa, em que falava de um acordo feito entre o Governo francês e a União Europeia para que França pudesse incumprir a meta do déficit. Se isso acontecesse, isso seria muito grave. Isso não é uma leitura inteligente dos tratados, isso era aplicar regras diferentes conforme os países e, como é óbvio, isso corrói o projeto europeu, aumenta muito o sentimento de injustiça entre europeus e, acima de tudo, torna muito mais fácil o discurso muitas vezes populista, muitas vezes contra o sentimento europeu, que nós percebemos que está a começar a perpassar em muitas das opiniões públicas na Europa. E por isso mesmo espero que aqui hoje nos possa confirmar que não houve nenhum acordo feito entre a Comissão Europeia e o Governo francês, porque se isso acontecesse, isso seria uma machadada muito profunda no projeto europeu. Permita-me também, Sr. Comissário, no minuto que me falta, perguntar-lhe só sobre um tema muito importante, que é o tema da arquitetura institucional da zona euro e muito especialmente da União Económica e Monetária. Nós não ficamos contentes quando temos, no caso português, crescimentos na casa de 1%. Nós não ficamos contentes quando temos na zona euro crescimentos de 1,5%. Não ficamos contentes com isso. Queremos, como é óbvio, muito, mas mesmo muito mais. Portugal cresceu em 2016 1,6%, mesmo assim temos de fazer mais. Este ano está a crescer 1,1%. É pouco para um país que tem a obrigação de crescer muito mais, mas nesse sentido nós sabemos que, enquanto não for feita efetivamente a reforma da zona da União Económica e Monetária, é muito mais difícil alavancarmos esse mesmo crescimento. Vimos com uma boa expectativa o roteiro de Bratislava, mas não posso também deixar de ver com alguma preocupação que há uma grande dificuldade em tomar medidas, há uma grande dificuldade em tomar ações. Vimos o relatório dos 4 presidentes, depois o relatório dos 5 presidentes, agora sabemos que vai haver um livro verde no início do ano de 2017, e termino já, Sr. Presidente, gostava que nos pudesse falar um pouco sobre essa matéria, porque é urgente fecharmos, de facto, este processo. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Comissário. Sr. Comissário,
Muitos dirigentes da União Europeia, nas suas declarações, nos vários discursos, procuram sempre falar de uma União Europeia de prosperidade, uma União Europeia de desenvolvimento, uma União Europeia dos direitos, da solidariedade, da coesão. Mas depois, quando vamos ver aquelas que são as opções políticas da União Europeia, quando vamos avaliar as consequências dessas mesmas opções políticas, aquilo que nós verificamos é que estas palavras não passaram de propalações e que, na verdade, a União Europeia, o que tem sido, é uma União Europeia feita à medida dos interesses do grande capital, feita à medida dos interesses dos países, nomeadamente do centro. E aquilo que é a realidade concreta dos povos, dos Estados-membros que integram a União Europeia, e consequência das opções políticas que têm vindo a ser adotadas pela própria, é desemprego, pobreza, desigualdades. Uma realidade para a qual a União Europeia, perante a profunda crise em que está envolvida, insiste em não dar a resposta, insiste numa fuga para a frente, nas mesmas opções que conduziram exatamente a esta mesma situação. E estou a falar que perante a real situação em que hoje os povos se encontram e a crise na e da União Europeia, aquilo que as instituições da União Europeia nos apresentam é a conclusão de insistir na União Económica e Monetária, a sua conclusão, insistir nas mesmas opções que efetivamente já demonstraram que não respondem aos problemas concretos com que as pessoas estão hoje confrontadas. Nós sempre afirmamos que a aplicação de qualquer sanção ao nosso país e a Portugal seria inaceitável. E em primeiro lugar porque se pretendia aplicar sanções aos resultados e às consequências de políticas que foi a própria União Europeia que impôs ao nosso país. Cria-se também com esta ameaça que pairou durante meses sobre o nosso país, as pressões, as chantagens que foram feitas em torno desta questão das sanções, o que se pretendia efetivamente era também condicionar o futuro do nosso país. E condicionar neste sentido, Sr. Comissário, porque também nós ouvimos várias vezes vários dirigentes colocar em causa medidas concretas que estavam a ser adotadas, que nós consideramos positivas, que correspondem à aspiração do povo português, pelo qual lutaram, reivindicaram, como seja o aumento de salários, a reposição de 35 horas do horário de trabalho, e foram exatamente aqui estas medidas que a União Europeia colocava em causa. A decisão da União Europeia de não suspensão dos fundos e também as decisões em relação ao Orçamento de Estado para 2017 não apaga este período que passou de inaceitáveis pressões e chantagens pelo nosso país, mas também não apaga a natureza das opções políticas da própria União Europeia, a natureza das sanções, porque elas resultam de condicionalismos, de constrangimentos, do Pacto de Estabilidade e Crescimento, da União Económica e Monetária, que efetivamente impedem, estão a impedir o desenvolvimento e o crescimento do nosso país. Aliás, na sua intervenção, inclusivamente hoje aqui na Comissão de Assuntos Europeus, o Sr. Comissário manteve sempre a porta aberta para a possibilidade de ser necessário mais medidas. E quando falam de mais medidas, também se refere, e a União Europeia refere muitas vezes, a necessidade de prosseguir as reformas estruturais. Leia-se, reformas estruturais, o que significa é retirar direitos aos trabalhadores, é cortar mais em direitos sociais como o apoio na segurança social, na saúde, na educação. São sempre estas as reformas estruturais que estão presentes nos dirigentes, nas opções políticas que a União Europeia pretende impor ao nosso país e que se diga também um país soberano e que é, cabe ao povo português a tomar as decisões que pretende para o futuro do nosso país. Eu queria terminar, Senhora Presidente, fazendo uma última referência para dizer o seguinte: as medidas que têm sido implementadas no nosso país nos últimos meses, e estou a falar daquelas medidas que vão ao objetivo da recuperação de rendimentos, da recuperação de direitos, afinal, aqueles têm sido os últimos dados no que diz respeito ao desenvolvimento da nossa economia, até são positivos.
vírus, a questão que eu deixava aqui no ar, imagine-se então onde é que Portugal não poderia ir se tivéssemos libertos deste conjunto de constrangimentos e de condicionalismos. Certamente os resultados seriam bem mais positivos, nomeadamente para os trabalhadores e para o nosso povo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Está terminada a ronda de perguntas ao Sr. Comissário. Tem agora a palavra o Sr. Comissário para responder em conjunto a todas as perguntas formuladas. Muito obrigada.
Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Je vous remercie de ces remarques qui marquent à la fois, comme c'est logique en démocratie, des différences d'appréciation, de jugement, d'orientation. Mais aussi, je veux commencer par là, un consensus dont je me réjouis, consensus dans l'appréciation sur les décisions de la Commission. Je reprends ce qui a été dit par M. Soares, à savoir que je pense moi aussi qu'elles sont justes, je sais qu'elles étaient attendues et je crois qu'elles sont responsables. Et c'est de cela d'abord dont il faut se réjouir, le fait que le pays retrouve le chemin de la croissance, le fait que les engagements budgétaires soient tenus, avec les conséquences que cela a, à savoir que, d'abord, le Portugal ne s'est pas vu infliger d'amende en mois de juillet, que la suspension des fonds structurels est levée, et qu'en réalité elle n'a pas lieu, et troisièmement, que le Portugal est sur la voie de la sortie de la procédure de déficit excessif, qui, c'est vrai, pour l'instant est suspendue, mais, en bonne logique, passant sous 3% nettement, elle sera non plus suspendue, mais levée. Et ça, ce sera très bonne nouvelle pour le Portugal. C'est le résultat d'efforts qui ont été faits successivement. Et je pense que, après, ce n'est pas à moi d'attribuer aux uns ou aux autres leur mérite, mais la situation est celle-là. Après, il y a une question qui a été posée par certains d'entre vous, que je ne veux pas ici éviter, il y a la question de nos règles. Et certains les récusent, d'autres les défendent, et des troisièmes s'en accommodent. Si je vois un peu la géographie logique de la politique portugaise qui correspond en réalité à ce qu'on trouve dans beaucoup de nos États membres. Les règles, ce sont des règles qui sont compliquées. Personne, je crois, ne peut le nier. Elles sont compliquées et elles doivent être simplifiées. Et je réponds à ce que vous disiez, monsieur le député, au début. Je pense en effet que nous avons un chantier de réflexion sur nos règles, non pas pour remettre en cause le pacte. Je pense que ce pacte est pertinent. Je crois que le désendettement de nos économies est une nécessité, qu'une économie qui s'endette est une économie qui s'appauvrit et qui, de surcroît, ne peut développer aucune forme de service public. Donc la réduction du déficit et de la dette est un impératif catégorique pour moi. Mais en même temps, il y a plusieurs amodiations qui peuvent être apportées au pacte. Non pas de remettre en cause le pacte, mais de réfléchir plus globalement. Un, c'est ce que la Commission a déjà fait. Nous devons appliquer le pacte non pas avec rigidité, non pas avec stupidité, non pas de manière procyclique, mais de manière subtile, intelligente et dans le sens de la croissance. Et c'est dans ce sens-là que cette Commission, depuis 2 ans, a intégré un certain nombre de flexibilités pour l'investissement, pour les réformes structurelles. Dans le cas de l'Italie, par exemple, pour les tremblements de terre, quand une catastrophe naturelle survient, et c'est déjà arrivé il y a longtemps, ici aussi à Lisbonne, il peut aussi y avoir des décisions qui sont prises en tenant compte de l'afflux de réfugiés pour des pays qui sont en première ligne. Et au total, nous avons toujours fait en sorte de prendre nos décisions de manière à ne pas brutaliser ou pénaliser la croissance des pays concernés. Mais il faut aller plus loin. Aller plus loin comment? D'abord, à travers ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire cette vision agrégée de la zone euro, et puis aussi, sans doute, à travers des amodiations dans le pacte, non pas, encore une fois, pour le détruire, non pas pour le remettre en cause, mais simplement pour faire en sorte que nous soyons capables de le rendre plus simple tout de même, plus lisible, parce que quand c'est trop compliqué, c'est qu'il y a une difficulté d'interprétation et de compréhension, et troisièmement, plus cohérent sur le plan économique, Et c'est vrai qu'il y a des réflexions qui sont menées, par exemple, sur le calcul de la croissance potentielle, qui influe aussi sur le déficit structurel. Un groupe technique travaille, le Conseil Ecofin s'en est saisi, la Commission est favorable à ce qu'on avance vers plus de cohérence économique. La question m'a été posée de savoir ce qu'ont été les mesures additionnelles pour 2016. J'ose croire que vous les connaissez, puisque par définition, elles ne peuvent être prises sans l'accord du Parlement. À l'été 2016, le gouvernement s'est engagé à réaliser en 2016 précisément une politique budgétaire neutre, c'est-à-dire avec un effort structurel qui soit égal à zéro, ce qui impliquait d'assurer 0,25% d'effort au-delà de ce qui était initialement prévu, ce qui se traduit par un meilleur contrôle de la dépense. Et c'est précisément parce que ces 0,25%-là nous apparaissent comme ayant été tenus que nous avons pu, en novembre, prendre notre communication sur ce qu'on appelle l'action effective et, à partir de ce moment-là, décider qu'il n'y avait pas lieu suspendre les fonds structurels, en tout ou partie. Et donc, voilà le chemin qui a été pris. Et ça, ce sont des choses qui ne sont pas secrètes, bien sûr, qui sont publiques dans nos échanges avec le Portugal et aussi qui est contenu dans notre rapport. Donc je ne fais là que vous traduire ce qui a été dit. Une question a été évoquée aussi, qui est celle de la disparité ou des inégalités de traitement qui pouvaient exister dans le cadre du pacte. Et là-dessus, je veux être d'autant plus net qu'il se trouve que vous avez traité de questions que je connais bien à plus d'un titre. Car, comme vous l'avez peut-être remarqué à la langue que j'utilise, je suis français. Et circonstance aggravante, je suis commissaire européen chargé aujourd'hui des affaires économiques et financières, donc je sais comment on applique les règles, puisque je suis chargé de leur application. Mais auparavant, ce n'est pas non plus secret, j'étais ministre de l'économie et des finances de la France. Et donc, vous êtes en train de me poser une question à laquelle je peux concrètement répondre. D'une certaine façon, comme consommateur, puisque j'étais là quand la France a obtenu 2 ans de délai en 2013, comme ministre des Finances, et comme producteur, puisque j'étais là encore quand la France a obtenu 2 ans supplémentaires de délai en 2015. Et je veux résumer les choses de la façon suivante. Premièrement, il m'arrive aussi de lire des livres ou des propos qu'on attribue à des personnalités politiques importantes en France. Je note que ce sont des propos attribués. Je suis là devant un Parlement, avec des caméras. Et je veux vous dire une chose de la manière la plus nette, la plus claire, la plus précise, parce que je le sais, parce que c'était ma responsabilité comme ministre des Finances de la France. Il n'y a eu aucun accord secret entre la Commission et la République française sur les budgets. Et il n'a jamais été question de faire semblant. Il n'est pas possible de dire des choses pareilles ou de les prétendre. Si la France s'est vue octroyer, elle n'était pas dans la même situation que le Portugal, elle n'était pas un pays sous programme, mais elle devait respecter des règles. Des délais, c'est parce que pendant les 2 années que j'ai connues comme ministre des Finances, on parlait d'effective action, la France, dans le cadre des règles, remplissait ses objectifs en matière de déficit structurel. Et si la France s'est vue octroyer 2 ans de délai de plus, c'est parce que cette fois-ci, elle est sur un chemin de réduction de son déficit nominal qui lui permet effectivement de passer sous 3% en 2017. Mais il n'y a pas 2 poids 2 mesures. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas acceptable. Quand le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a dit « parce que c'est la France », c'est parce qu'il aime la France. Mais je veux vous rassurer, il aime autant le Portugal. Et les mesures qui sont prises aujourd'hui, les décisions qui sont prises aujourd'hui qui sont positives pour le Portugal, elles ne sont pas davantage prises parce que c'est le Portugal que les mesures antérieures ou les décisions antérieures avaient été prises parce que c'était la France. C'est parce que la France, hier, comme le Portugal aujourd'hui, a été dans le cadre des règles. Et je veux bien qu'on ait des débats politiques compliqués. Parfois, je veux bien que certaines paroles soient prononcées, mais je le dis ici devant une commission parlementaire, donc pas pour plaisanter. Non, la France n'a jamais eu un accord avec la Commission, la France n'a jamais fait semblant, il ne peut pas y avoir 2 façons de traiter des pays en fonction de leur taille. Sinon, on ne peut plus croire en l'Europe. Les règles, elles sont ce qu'elles sont pour tout le monde. Les méthodes sont les mêmes pour tout le monde. Les jugements sont les mêmes pour tout le monde. Et l'attitude de la Commission, elle est la même pour tout le monde. Elle est faire respecter les règles, donc être dans le sérieux budgétaire, et aussi favoriser la croissance. Je le répète, la croissance est un objectif politique, et nous l'assumons, et nous allons plus loin avec notre règle agrégée. La règle budgétaire, c'est vraiment notre boussole. Et la Commission, elle est là pour faire respecter des traités. C'est ce que je fais dans ma fonction, c'est ce que faisait mon prédécesseur, Olli Rehn. Un commissaire finlandais, que certains ont connu ici, qui n'était pas vraiment un homme à faire semblant. Et le président de la Commission, que certains ont connu aussi ici, M. Barroso, ne faisait pas non plus semblant avec les règles. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire litière de cela. Il m'a été demandé ce qui allait advenir maintenant. C'est ce que M. le vice-président a demandé sur les risques. D'abord, oui, nous estimons qu'il y a encore des risques de non-conformité. C'est vrai que le Portugal se trouve à une charnière. J'ai expliqué que dans les différentes classifications, il y avait ces trois classifications en conformité, globalement en conformité, en risque de non-conformité. Mais à l'intérieur des classes, comme ces trois groupes, il y a comme des situations hétérogènes. Et le Portugal se trouvait à la charnière entre globalement conforme ou en risque de non-conformité. Nous avons dit qu'il y avait un risque de non-conformité, je le maintiens ici, parce que c'est vrai que dans notre méthodologie, l'effort structurel demandé au Portugal, il y a encore un écart qui est compris, il est très faible, hein, entre 0 et 0,1. Mais nous ne pouvions pas dire que cet écart n'existait pas. Sinon, pour le coup, nous aurions pris une décision parce que c'était le Portugal, et non pas parce que c'était les règles. Et on aurait pu reprocher à la Commission actuelle de prendre une décision trop favorable. Et ce n'est pas ce que nous entendons faire, nous voulons être objectifs. En même temps, nous avons une méthode qui est commune, nous avons une date, comme on dit, de cut-off, après laquelle nous ne pouvons plus prendre en compte des informations nouvelles. Cette année, c'est le 30 octobre. Il se trouve que le chiffre du troisième trimestre, qui aurait pu changer peut-être la donne, est arrivé le 15 novembre. C'est comme ça, ce sont les règles, pour le coup, de la comptabilité portugaise. Et nous ne pouvions pas ajuster en temps réel tout notre jugement, parce que si nous faisons ça, on a des prévisions qui arrivent tout le temps, et du coup, c'est le désordre sur les 28 pays. Mais ce que je crois et souhaite, c'est que les chiffres suivants de la croissance permettront de vérifier que ces risques ne sont pas avérés. Et vous devez l'espérer et le croire aussi, parce que ça voudrait dire que l'économie portugaise va mieux. Et nous avons un prochain rendez-vous, qui sont nos prévisions d'hiver. La Commission présente ses prévisions 4 fois par an. Les prochaines sont en février 2017. Et c'est à ce moment-là que nous pourrons évaluer les choses. Mais je le répète, vous êtes vraiment sur la tranche entre le globalement conforme et risque de non-conformité. Nous estimons que les risques sont contenus. Si cela est vraiment le cas, il n'y a aucune raison de demander demain les mesures que nous ne demandons pas aujourd'hui. Enfin, je vais évoquer 2 questions très rapidement. La première, c'est toute la série de remarques que vous avez faites, monsieur le député, au début de votre intervention, dans lesquelles, je dois dire, je me reconnais beaucoup. Je pense que cette question de l'avenir de l'Union économique et monétaire est une question que nous devons traiter globalement et avec ambition. Vous avez salué ce que nous faisons sur l'orientation budgétaire de la zone euro comme une excellente initiative, et je vous en remercie. Et je suis tout à fait au courant des propositions qui ont été faites en mai 2015. Je retrouve ici Maria Luís avec plaisir. La dernière fois que je suis venu ici à Lisbonne, elle était ministre des Finances. Je les connais et il y a une très grande convergence de vues là-dessus. En quoi? D'abord, à titre personnel, car je m'exprime à titre personnel, je suis moi aussi favorable à une forme de communautarisation du mécanisme européen de stabilité, ce qui permettrait en effet de lui donner des fonctions supplémentaires. Je pense que nous devons aller plus loin dans le soutien à l'investissement, c'est ce que nous faisons avec le plan Juncker, dont nous allons porter la capacité de 315 milliards d'euros d'ici 2018 à 500 milliards d'ici à 2020, et je souhaite que cela soit prolongé. Je crois que nous avons besoin de réformes structurelles, j'en suis convaincu pour ma part. Je pense aussi que ces réformes doivent petit à petit changer d'esprit. Quand des réformes dures sont faites, et c'est nécessaire sur les retraites ou sur le marché du travail, elles sont faites. Il y a d'autres réformes qui sont à faire demain, pour l'éducation, pour améliorer la capacité de recherche, pour permettre à un pays de promouvoir l'innovation. Et ces réformes structurelles de deuxième génération, elles sont devant nous. Vous vous êtes prononcé pour une capacité budgétaire de la zone euro. J'appuie totalement cela. Je pense qu'elle doit avoir des fonctions d'investissement et de stabilisation. Et d'ailleurs, c'est des propositions que j'avais faites moi-même en mai 2013, quand j'étais ministre des Finances de la France. Et je continue de les appuyer. Nous avons un rendez-vous. Nous avons une base. La base, c'est le rapport de 5 présidents. Le rendez-vous, c'est le livre blanc sur l'avenir de l'Europe pour le traité de Rome. Les 60 ans du traité, je vais y revenir dans ma dernière intervention, qui inclura la question de l'union économique et monétaire. Et la Commission va avoir là-dessus une vision ambitieuse. Je dis au passage que sur le plan institutionnel, il faut faire attention. Vous avez parlé du Fonds monétaire européen, vous avez évoqué une capacité budgétaire. Je crois qu'il est très important que la Commission reste au cœur du système, car le système doit être un système communautaire. Il ne peut pas devenir un système purement intergouvernemental. Ce serait là un très grand danger. Ce qui me permet de préciser, avec tout à fait amitié et fermeté, ce que j'ai pu dire à Harvard lundi dernier. J'ai expliqué que l'Europe se trouvait dans une crise telle qu'elle devait définir un régime de transition, qui soit un régime dans lequel elle soit capable de mieux protéger ses citoyens, de démocratiser sa vie politique et ses institutions, et enfin d'avoir une véritable politique économique. Je viens d'écrire un livre là-dessus, qui doit reposer sur la zone euro, sur sa capacité budgétaire, sur la création d'un trésor de la zone euro, peut-être sur l'idée d'un fonds monétaire européen, et enfin, en termes de gouvernance, la création d'un ministre des Finances de la zone euro. Je crois à tout ça. Et j'ai évoqué la perspective d'un saut fédéral. Je suis fédéraliste. J'ai même été président du mouvement européen dans mon pays il y a longtemps, une dizaine d'années. Mais dans mon discours d'Harvard, je le dis très précisément et je le répète ici, je ne crois pas du tout que nos peuples soient mûrs pour un saut fédéral maintenant. Je pense qu'en effet, dans le climat que nous connaissons, il faut respecter les souverainetés nationales. Je dis simplement que quand nous voyons ce qui se passe aux États-Unis, l'avenir de l'Europe, c'est son union. Et que cette perspective fédérale, elle doit rester un objectif de long terme. Ce que nous devons faire maintenant, ce n'est pas aller vers cela. C'est préparer une transition vers un système plus intégré sur le plan économique, dont la zone euro soit le cœur. Et là-dessus, je reconnais beaucoup de convergence avec vos idées. Enfin, ma dernière remarque, et pour ce que vous avez dit, monsieur le vice-président, sur la fiscalité, la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale, ce n'est pas l'objet de mon audition d'aujourd'hui, mais c'est l'objet de beaucoup de mes efforts comme commissaire chargé non seulement de l'économie et des finances, mais aussi de la fiscalité. Et je pense que nous sommes en train de vivre en Europe une vraie révolution de la transparence fiscale. Je ne veux pas développer cela, mais dans le cadre du G20, dans le cadre de l'OCDE, dans le cadre de l'Union européenne, nous sommes en train de faire des progrès de géant pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et pour faire en sorte que les multinationales payent leur juste part d'impôts. Nos concitoyens, les Portugais, les Français, les Italiens, les Slovènes, les autres, on leur a demandé beaucoup d'efforts pour réduire les déficits. Et les règles, ça marche, puisque la moyenne des déficits dans la zone euro était à 6% en 2010, à 1,5% maintenant. Mais ils ne supportent pas du coup que des multinationales, elles, parce qu'elles ont des armées de conseillers juridiques ou fiscaux, se débrouillent pour ne pas payer d'impôts là où elles créent des profits. Ça n'est plus possible. Et donc, tout l'effort de la Commission, c'est d'aller vers cela. Et c'est vraiment un terrain sur lequel nous sommes en train de montrer que l'Europe est nécessaire, car évidemment, ce sont des choses qu'on ne peut pas faire à l'échelle nationale, et que l'Europe produit des résultats, parce que mettre fin au secret bancaire, demander aux entreprises un reporting sur leurs données comptables et fiscales, réaliser une directive contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale, demain mettre en place, et j'ai besoin du soutien du Portugal, une liste noire de paradis fiscaux, car nous ne pouvons plus tolérer cela. Ce sont des progrès majeurs de l'Europe. Et je serais en effet, comme vous, tout à fait satisfait si cela pouvait être marqué à l'occasion du 60e anniversaire du traité de Rome. Il y a trop peu de sujets sur lesquels il y a un consensus européen, celui-ci en est un, il faut le saluer comme tel et le promouvoir comme tel. Voilà, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, ce que je voulais vous dire. J'aurais aimé rester plus longtemps parmi vous, répondre aux différentes questions des députés, mais je me réjouis de l'état d'esprit qui est celui qui règne autour de cette table. Bien sûr, il y a des différences politiques, c'est la force de nos démocraties. Évidemment, il y a ceux qui, encore une fois, apprécient les règles beaucoup, un peu, passionnément, ou pas du tout, comme on dit en français, et c'est bien logique. Mais en même temps, ces règles, aujourd'hui, et je suis heureux d'être là, c'est pas le hasard totalement, mais je ne connaissais pas par définition la décision qui serait prise par le Portugal, et elle n'avait pas été prise parce que je venais ici aujourd'hui. Elle aurait pu être plus mauvaise. Eh bien, je pense que ces règles sont en train de prouver, et la Commission est en train de prouver, que telles qu'elles sont, elles permettent à la fois d'améliorer la situation des finances publiques et de muscler la croissance. Et donc que ce sont des règles intelligentes. Et que nous pouvons marier ensemble le sérieux budgétaire qui est indispensable pour désendetter nos économies. Il n'y a pas d'avenir sans cela. L'objectif politique commun qui est la croissance pour l'emploi et la lutte contre les inégalités. Et c'est la seule condition pour faire reculer les populismes et pour réconcilier les citoyens avec l'Europe. J'ai entendu ce que vous avez dit sur les grands et les petits pays. Il y a une chose dont je peux vous assurer, et je ne parle pas là comme français, j'ai répondu ce qui devait être répondu sur ce sujet, que la Commission est très attentive au Portugal, qu'il y a pour le Portugal un regard qui est un regard porté sur un grand pays qui est en train de retrouver le chemin de la croissance, le chemin de l'espoir, et que la Commission, elle est là pour aider le Portugal, avec bien sûr le respect des règles, à continuer dans cette voie. Après, ce sont les Portugais qui choisissent démocratiquement ceux qui la portent, et ça, bien sûr, c'est un sujet sur lequel je n'ai rien à dire. J'ai bien travaillé avec le gouvernement précédent, je travaille bien avec le gouvernement actuel. Si je suis encore là, je ne sais pas ce qui se passera dans les temps prochains, je travaillerai bien avec le suivant, dès lors bien sûr que ce sont des gouvernements attachés à la fois à leur pays et à l'Europe. Il ne peut pas y avoir d'avenir portugais sans l'Europe, il ne peut pas y avoir d'avenir européen sans le Portugal.
Muito obrigada, Sr. Comissário Pierre Moscovici. Terminamos a nossa audição. Agradeço de novo, em nome da Comissão dos Assuntos Europeus e dos senhores deputados das Comissões COFMA e da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, que participaram também nesta nossa reunião, esta importante audição, num momento crucial de uma tomada de decisão favorável e querida e justa pelo povo português, mas também por este Parlamento. Sr. Comissário, agradecemos de novo a sua clareza nas respostas e desejamos a continuação de um bom trabalho. À Sra. Doutora Sofia Alves, chefe da representação portuguesa da Comissão Europeia em Lisboa, também os nossos agradecimentos pela sua presença e a presença da sua equipa e também os agradecimentos à equipa que acompanha o Sr. Comissário. Muito bom dia a todos. Muito obrigada. Muito obrigada também aos membros da comunicação social que estiveram presentes nesta audição. Muito bom dia.